proposer une synthèse qui sera relativement courte de cette journée. Je vais commencer, il faudrait fermer le... Merci. Je vais commencer par la fin, Madame Camagne, qui nous a rappelé un certain nombre de chiffres assez affolants. Un adulte sur 10 affirme aujourd'hui avoir subi des violences. Un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de l'un ou de ses deux parents. Il existe encore aujourd'hui 160 000 victimes de violences sexuelles chaque année et 8 victimes sur 10 de ces violences sexuelles sont des victimes d'inceste. La question qui se posait aujourd'hui face à ce constat est bien de savoir comment réagir, comment intervenir, comment accompagner ces traumatismes. Madame Kerbache, ce matin, nous a bien orienté vers une distinction entre trois types de traumatismes, traumatisme de type 1 et de type 2, et le type 3 est quand même assez proche du type 2. Traumatisme du type 1, chacun d'entre nous l'avons vécu, pour nous ou pour un de nos enfants, la mort d'un grand-père, la mort de son hamster, une rupture amoureuse. 70% de la population mondiale affirme avoir connu à un moment ou à un autre ce type de traumatisme. Et 80% des enfants se rétablissent. Il ne faut pas juger la façon dont un enfant vit ce type d'événement. Ce qui compte, c'est son éprouvé. Et ne pas dire à l'enfant, mais ce n'est rien, ce n'est que ton hamster. Pour l'enfant, cet hamster était peut-être un être particulièrement important. Le traumatisme de type 2, lui, est caractérisé par un événement aigu et répété qui s'attaque à l'intégrité psychique de la personne. Alors, parmi les symptômes que Mme Kerbage a identifiés, il y a cette hypervigilance qui amène l'enfant à se demander à chaque instant s'il ne va pas être victime de violence face à l'adulte qui lui fait face, l'irruption de la mémoire traumatique, ces souvenirs qui ressurgissent et qui vont pourrir la vie de l'enfant, la perte de sentiment de sécurité, il ne peut compter que sur lui-même pour s'en sortir, l'altération du développement émotionnel et social, et enfin la difficulté à réguler ses émotions. Anne Loucan et Alain Lafage ont rajouté à ce traumatisme qui affecte ont rajouté un complément en expliquant que ce traumatisme affecte la psyché du groupe familial par effraction ou par implosion. Avec pour symptômes complémentaires à ceux que je viens d'évoquer et qui étaient décrits par Mme Kerbage, le fait de figer le temps, là aussi la réminiscence des scènes traumatiques, la reproduction répétitive et cumulative de ces souvenirs qui ressurgissent et l'empêchement de toute pensée. Donc aussi Mme Loncan et M. Lafage se sont posé la question comment réussir à colmater ces brèches, avec comme première hypothèse que la majorité des familles trouvent leurs propres ressources quand il s'agit du traumatisme de type 1. Et ils nous ont décrit, n'ayant pas réussi à finaliser et à terminer, leur description tout à fait passionnante, cette thérapie à long terme qui consiste à démêler fil après fil les entrelacements du parcours familial pour mettre des mots, sortir du mutisme et restaurer les capacités de symbolisation. Patrice Ortoneda a repris pour nous la théorie de Pierre de Lyon. Si la fonction phorique inventée et conçue par ce psychanalyste consiste bien à prendre en compte l'enfant, à le tenir et donc à le prendre en compte, il faut au préalable faire appel à la fonction sémaphorique en étant attentif et vigilant à tous les signes qui précèdent et qui peuvent se manifester. Madame Kerbage a beaucoup insisté sur la cohérence, le maintien, la constance dans la bienveillance de la relation des adultes qui accompagnent cet enfant victime. Bien interpréter les symptômes qui se manifestent au moment même où l'enfant est mis à l'abri et où il se sentirait a priori protégé, alors qu'il va peut-être se lancer dans l'opposition, dans la réaction violente, dans l'agressivité et dans le rejet. On ne peut effacer la maltraitance qu'il a subie, mais on peut lui faire vivre des expériences positives pour lui permettre de se reconstruire et renforcer ses stratégies d'adaptation. Madame Kerbage a rappelé qu'il y avait une réversibilité et une résilience dynamique dans le destin de cet enfant victime, même si la vulnérabilité va perdurer. comment y arriver, comment s'orienter, quels sont les grands axes, répondre à ses besoins physiologiques, ses besoins de sécurité, ses besoins d'amour et d'appartenance, ses besoins d'estime de soi. Pourtant, Mme Carbage a posé quelques doutes quant au débriefing psychologique automatique qui est assez critiqué par les anglo-saxons, alors qu'en France, absolument systématiquement, quand il y a un événement traumatique, il y a cette, on propose aux personnes, on ne les force pas bien sûr, mais on leur propose de répéter et de reformuler ce qu'ils ont vécu en partant du principe que sera systématiquement, obligatoirement, un effet positif. Elle a aussi rappelé que la psychothérapie était utile, mais elle n'est pas incontournable, et avant d'engager quelque thérapie que ce soit, il faut restituer chez l'enfant victime la stabilité et la sécurité qui lui permettra d'être accessible à cette thérapie. Guillaume Castellanos nous a présenté le séjour de rupture sur l'océan SPIC. 4 enjeux sont proposés par rapport à cette aventure. Se confronter au risque, ce qui permet de s'adapter à l'insécurité et de travailler ces adaptations à la sécurité si indispensable pour le développement de l'enfant. Deuxième axe, s'avancer vers l'inconnu. L'inconnu qu'on ne connaît, qu'on ne sait pas, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire, on le découvre au fur et à mesure, que ce soit lorsqu'on escalade une façade, on ne sait pas si on va y arriver, on l'a pas forcément fait une première fois, ou bien quand on navigue à travers des mers déchaînées, comme l'expliquait très bien le Moum dans le petit film. Là, cette avancée et cette capacité de s'avancer vers l'inconnu permet de s'ouvrir sur l'avenir. Éprouver ensemble ensuite. C'est vrai que dans ce type de séjour de rupture, ce n'est pas l'enfant qui fait et l'adulte qui observe ou qui commente. L'enfant est aux côtés de l'adulte quand il s'agit de se confronter à une tempête en mer. L'enfant, les enfants et les adultes se tiennent les coudes pour pouvoir avancer. Et enfin, cette espèce cette démarche fondatrice un petit peu des séjours de rupture, c'est relever des défis. Relever des défis quand, lorsqu'on y arrive, permet de restaurer l'estime de soi. Jean-Pierre Rosenzweig, enfin, nous a placé encore, parce que c'est pas tout à fait fini, Jean-Pierre Rosenzweig nous a donné 4 axes pour structurer la protection de l'enfance. Donner un statut aux enfants. Et il a rappelé par son anecdote comment, en droit, un enfant a la possibilité de déposer plainte. On peut l'accompagner, il est en tant que citoyen tout à fait capable. Et là, ce qui est très compliqué, c'est d'être confronté à des forces de police, aux gendarmeries, qui dénient ce droit en le conditionnant à la présence des détenteurs de l'autorité parentale. Le deuxième axe qu'il nous a proposé, c'est de garantir la parentalité. Lors de la journée 2022 d'Ado 66, nous a fait entendre un intervenant qui a développé, à partir de l'expérience du SAPMN dans le département du Gard, la pertinence de cette coparentalité. Coparentalité qui n'est pas un slogan, qui doit pouvoir se déployer. Il y a des parents qui peuvent être dans la coparentalité une heure par mois, parce qu'ils ne peuvent pas faire plus. Et puis la coparentalité, comme me disait Jean-Pierre tout à l'heure, où on va confier les tâches quotidiennes à des parents pour les associer à la vie de l'enfant. Troisième axe, c'est permettre aux jeunes de sortir de la délinquance. Il y a un terme très intéressant en sociologie qui s'appelle la désistance. La désistance, c'est la capacité à sortir du registre de la délinquance, faire en sorte de faire un pas de côté, et parmi les nombreuses conditions qui permettent de sortir de la délinquance, il y a cette rencontre avec des personnes ressources. Et les référents d'établissement, les référents ASE, les profs, les bénévoles du séjour de rupture, par exemple, d'Océan Speak, font partie, et j'en passe, c'est des meilleurs, des assistantes familiaux, font partie de ces personnes ressources qui peuvent aider l'enfant à rebondir et à choisir sa propre voie. Pas la bonne, parce que là, c'est la sienne, mais en tout cas, une voie qui lui permettra d'éviter d'être soumis en permanence aux aléas de la répression et de se retrouver emprisonné à un moment ou à un autre. Et enfin, dernier axe proposé par Jean-Pierre, c'est rendre justice aux enfants quand il évoque 5 500 000 Français qui se disent avoir été victimes de violences. Il parle effectivement non pas d'une demande de justice, mais d'une véritable lutte contre un crime contre l'humanité. Enfin, Mme Camagne nous a précisé le rôle des administrateurs ad hoc, mineurs incapables juridiques. Même les mineurs sont incapables juridiques, même s'ils disposent de leurs droits depuis leur naissance. C'est donc le détenteur officiel de l'autorité parentale qui les représente, sauf, a-t-elle expliqué, que si un conflit d'intérêts entre ce détenteur et l'intérêt de l'enfant se manifeste, eh bien, il va y avoir un mécanisme de substitution et l'administrateur ad hoc va prendre la place et la fonction de l'autorité parentale, en tout cas pour l'action au civil comme au pénal. Mais elle a terminé, ça me semble vraiment très important de le souligner, sur ce qui fait le fondement, l'ADN du travail de l'administrateur ad hoc et qui est aussi le fondement, l'ADN de tout professionnel en protection d'enfance, c'est celui de travailler dans l'orfèvrerie pour, en ce qui concerne l'administrateur ad hoc, en ce qui concerne soit la gestion des dommages et intérêts, soit... Alors, les dommages et intérêts, j'ai marqué dans le livre que l'enfant Delay, on parle beaucoup d'Outreau, on parle beaucoup des innocentés d'Outreau, on ne se rappelle pas qu'il y a eu 4 personnes qui ont été condamnées pour 12 enfants qui ont été martyrisés, et l'un de ces enfants, à la majorité, un des enfants Delay, lorsqu'il a récupéré l'argent qui lui avait été mis de côté, il a tout claqué en disant que c'était, il considérait que c'était l'argent de la prostitution et que c'était l'argent du crime qu'il avait subi. Donc c'était vraiment très intéressant aussi de réfléchir, c'était la fin du colloque avec notamment l'intervention de Jean-Pierre Rosenzweig sur le retrait de l'autorité parentale. Et je crois qu'en protection de l'enfance, comme j'ai eu l'occasion de le dire ce matin, on ne fait pas au mieux, on essaie de faire le moins pire possible en se disant, en ayant toujours le doute, il faut d'une main tremblante agir, poser des actes, mais toujours se poser la question, ça ne doit pas nous empêcher d'agir, mais toujours s'interroger en se demandant si on fait bien, et en tout cas, le plus important, est-ce qu'on fait le moins mal ? Je vous remercie.